BFM Bourse, le club de la bourse.
Oh, ce soir, après la clôture de Wall Street, Apple qui va fermer le bal des publications dans l'univers des 7 magnifiques. On aura Nvidia quand même le 22 mai encore. Allez, dans l'univers des GAFAM. Voilà, Apple qui tout à l'heure annoncera ses résultats. Donc, on en parlait avec John Plassard. Qu'attendre d'Apple et quelle réaction des marchés généralement après les publications d'Apple? C'était à 15h30. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible, le podcast également, sur notre application BFM Bourse. Vous pouvez, BFM Business, vous pouvez scanner et flasher aussi le QR code qui apparaît sur vos écrans si vous nous suivez à la radio. C'est avec BFM Business, c'est aussi à la télévision. Le potentiel des marchés, donc, pour la suite, ils sont là, nos coéquipiers du club, ils viennent de s'installer. Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir, Michel.
Bonsoir, Guillaume.
Bienvenue. François Dossou aussi nous rejoint ce soir. Bonsoir, François.
Bonsoir, Guillaume.
Directeur de la gestion action de Siena Gestion. Ravi, messieurs, de vous accueillir. On va revenir sur la Fed, promis, dans un instant. On va parler aussi des chiffres de coûts salariaux aux États-Unis qui tendent à réaccélérer, bien sûr. Ça met un peu de pression, c'est vrai, sur les marchés. Mais d'abord, François, voilà, on avance bien maintenant dans la saison de publication. Et les marchés ont plutôt tendance quand même à reculer, là. On est sous les 8000 pour le CAC 40, on est presque en danger, les 7900 points ce soir. Est-ce que la saison de publication s'avère finalement un peu décevante ou un peu trop faible? Ou au contraire, on est sur une respiration de marché classique et finalement salutaire?
Je pense que quand vous regardez les résultats des entreprises, vous avez quand même des messages qui sont assez rassurants. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de mauvaises surprises? Je pense que les mauvaises surprises sont sanctionnées. Ceci dit, on a quand même des messages qui restent encore relativement rassurants et plutôt constructifs. Donc moi, je dirais que nous sommes plutôt dans une période logique de prise de profit pour un marché qui avait monté vite sur des anticipations. On reviendra tout à l'heure sur les publications du jour. On se rend compte en fait que probablement les attentes du marché, elles étaient peut-être très élevées. Et on voit paradoxalement que les titres sur lesquels les anticipations sont faibles ont même plutôt tendance à rebondir. Donc je pense qu'on est dans cette période où, de résultats où c'est un peu l'heure de vérité. Les actions qui ont bénéficié d'un momentum particulièrement favorable et qui ont progressé significativement ont plutôt tendance à redonner un peu de terrain. Mais je pense qu'à ce stade, il n'y a pas encore d'inquiétude à avoir sur la tendance moyen terme. Je pense qu'on est dans un phénomène tout simplement de réalignement des anticipations par rapport aux publications de résultats.
Est-ce que c'est la fin de la magie du coup? L'intelligence artificielle, quand il y a des annonces autour de l'IA, maintenant les titres n'explosent plus à la hausse. Même les médicaments anti-obésité, avant quand il y avait des annonces, les titres progressaient, s'envolaient à la hausse. Là, c'est pas le cas. Par exemple, Novo Nordisk aujourd'hui, qui relève encore une fois ses prévisions, Novo Nordisk, le titre est en baisse de 2%. Ça ne marche plus.
Oui, ça ne marche plus parce qu'en fait, quelque part, quand vous regardez, c'est assez intéressant le cas de Novo Nordisk. Quand vous regardez bien les résultats, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une très bonne surprise sur les résultats, sur les activités historiques du groupe, à savoir l'insuline et le diabète. Et le marché n'achète pas. Pourquoi? Parce que le marché est focalisé sur l'obésité, sur les produits liés en fait à l'obésité. Alors qu'à ce stade, effectivement, vous avez des croissances qui sont stratosphériques, mais l'histoire ne dit pas encore qui va payer. Et donc, il y a un moment donné où, lorsque les anticipations de croissance sont aussi fortes, le marché est en droit de se poser des questions. Est-ce que cette croissance, elle est soutenable? Même si, de mon point de vue, ça ne remet pas en cause les performances de l'entreprise et sa croissance, son potentiel de croissance au moyen terme. Parce qu'en fait, c'est un marché qui est gigantesque et sur lequel, en fait, les attentes sans doute seront atteintes, mais là encore, c'est une question de valorisation, parce que pour juste donner une comparaison, vous êtes sur un titre qui intègre une croissance très très élevée par rapport au reste des concurrents. Quand vous regardez, vous êtes quand même à plus de 30 fois les bénéfices 2025. Quand vous regardez en PEG, c'est-à-dire vous rapportez ça à la croissance future, vous revenez à 1,7% quand vous regardez le PEG, mais vous êtes toujours au-dessus en fait de la moyenne du secteur qui est 1,5%. Mmh. Alors, qui est 1,5, pardon. Donc, ce qui se passe, c'est que...
On comprend, il y a des médicaments anti-obésité, donc on comprend que ce soit mieux valorisé.
Oui, mais vous avez quand même une incertitude sur la trajectoire de cette croissance. Et donc, l'incertitude par rapport à une croissance, c'est sûr qu'il est toujours plus simple, plus facile de décevoir quand vous avez des croissances stratosphériques. Hey. Et lorsqu'on regarde le marché aujourd'hui, les entreprises sur lesquelles, et peut-être qu'on reparlera de téléperformance, en fait, les surprises sont très très faibles, avec des attentes très très limitées. Et donc, les performances des titres sont... Et c'est peut-être une stratégie et c'est peut-être un positionnement qu'il faudra adopter sur les portefeuilles dans les semaines à venir. Bien mesurer, en fait, qu'est-ce qui vient du réalisable et qu'est-ce qui, de notre point de vue, est sans doute est plutôt moyen, long terme, et a été déjà beaucoup acheté.
Parce que l'anti-obésité, on connaît, enfin non, on ne soupçonne pas encore peut-être l'entièreté de ce marché. Il est énorme. La question qui se posera à ces acteurs, c'est seront-ils capables de délivrer, de produire autant que la demande l'exigera? C'est une des questions qui se posent.
Et qui paye.
Qui paye, effectivement. L'an dernier, par exemple, Novo Nordisk a relevé 3 fois ses prévisions. 3 fois. Là, il les relève à nouveau. Alors, c'est presque devenu business as usual. Du coup, le marché devient un peu insensible, un peu plus exigeant, sachant que Novo Nordisk, depuis le début d'année, a encore pris près de 30% en bourse. Donc ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. Sur l'IA aussi, on va en reparler dans quelques minutes. Et puis sur le front aussi monétaire. Voilà, toujours des interrogations qui persistent sur le calendrier, le fameux calendrier des premières baisses de taux. Michel, est-ce que vous en savez beaucoup plus à l'issue de la réunion de la Fed d'hier soir là-dessus ?
Bah, si, le risque de hausse des taux, il est jugé extrêmement peu probable.
Oui. Ça, on se posait encore la question il y a 24 heures, voilà, l'hypothèse d'une possible, peut-être une hausse de taux de la Fed, cette hypothèse, elle a été écartée par Jérôme Powell.
Voilà. C'est la seule chose qu'on sait de plus.
C'est la seule chose qu'on a apprise, en fait.
Oui. Donc, oui, après, donc, les débats sont ouverts. Si la Fed va baisser les taux cette année, si oui, de combien, et après, jusqu'à où ? Là, il n'y a aucun signal qui a été donné. La Fed insiste sur la confiance qu'elle doit avoir avant de commencer à baisser les taux, la confiance qu'elle doit avoir pour que l'inflation revienne à 2%, et elle conclut que, elle remarque que les chiffres, l'un des chiffres vont pas dans le sens d'une modération de l'inflation. Alors, vous avez mentionné les coûts salariaux unitaires à 4,7% en an. Cette semaine, on a eu les coûts salariaux qui étaient à 4,6.
Oui, c'est supérieur aux attentes.
Voilà, tout est supérieur, dans 4,9, je crois, tout est supérieur aux attentes. Et on est des coûts salariaux unitaires à 4,9, c'est très très loin de la tendance requise. Hein. Il faudrait être plutôt autour de 3, quoi.
Et donc, pour vous, la Fed attend, il faut que les indicateurs sur l'inflation convergent davantage vers l'objectif pour que la Fed commence à baisser ses taux. Pour vous, ce sera quand ?
Alors, nous, on dit pas de baisse des taux cette année.
Ah.
Après, le marché anticipe qu'il y ait 30 points de baisse de taux cette année. Mais je crois qu'il est maintenant acquis que la Fed ne baissera pas les taux cet été, quoi. Cet été, ça paraît extrêmement peu probable. Tout ça parce qu'en fait, quand on regarde la dynamique des derniers chiffres d'inflation, le momentum sur les 3 derniers mois, ça ne fait que remonter. Quand on parle de l'inflation sous-jacente, core CPI, core PCE, on est sur des tendances au-dessus de 4,5% l'an sur 3 mois. Il faudrait qu'on ait des chiffres en plus de 3 mois à 2%, quoi. Et puis il y a le temps de réagir.
Un 2,7%, la Fed ne pourra pas s'en accommoder. Il faudra qu'on aille à 2,1, mais pas 2,7. Ça n'ira pas.
C'est pas une science précise, mais surtout, il faut une série. Il faut que les étoiles soient alignées pendant au moins 3 mois consécutifs.
Oui.
Et si vous avez un chiffre à 2 et des poussières, et qu'après ça remonte à 3 et des poussières, votre degré de confiance qu'on va dans le bon sens, il n'est pas acquis.
Donc pour l'instant, statu quo, mais parallèlement, la Fed annonce un ralentissement de la réduction de bilan.
Oui. Alors
là-dessus, c'est pour le coup un peu plus souple. Du coup, voilà, c'est une poire pour la soif en l'occurrence. Sur les taux, il va falloir rester patient, mais en échange, on fait un petit geste sur le bilan. C'est comme ça qu'on doit l'interpréter ou pas ?
Non, c'est lié à d'autres sujets. C'est lié à l'abondance de la liquidité dans le système. On se souvient que en 2019, quand la Fed commencer à augmenter ses taux. À ce moment-là, d'ailleurs, la BCE baissait ses taux. Il y avait eu des problèmes de liquidité. Il y a eu, l'an dernier, quand il y a des problèmes dans le secteur bancaire américain, ils ont changé toutes les facilités de repo. Donc, ils savent que le marché, que la liquidité en bons du Trésor américain, elle peut parfois être mise sous pression. Donc, voilà, ils se donnent du temps, ils y vont très graduellement.
Il y a eu une légère alerte sur le 5 ans américain, par exemple. Il y a eu une adjudication il y a quelques jours sur le 5 ans américain qui a eu du mal à trouver de la demande. Ça a surpris tout le monde, d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est face à ce genre d'alerte qu'effectivement la Fed...
Oui, on y va doucement. Oui. Mais bon, en même temps, la ligne de mire, c'est quand même de continuer à faire baisser le bilan de la Fed, hein, qui a plus de 8 000 milliards de dollars. Il y a encore beaucoup de marge.
François, entre la Fed qui décidément est partie pour prendre son temps avant de baisser les taux et la BCE qui devrait démarrer dès le mois de juin, est-ce que vous vous dites que là, justement, cet alignement d'astres sera plus favorable au marché européen ? On aura les premières baisses de taux en Europe avant les États-Unis.
Oui, si vous voulez, en fait, oui et non. Parce qu'en fait, en réalité, ce qui va se passer, c'est que, comme vous savez, le marché américain, c'est quand même le marché leader. Je pense que le marché européen ne réussira pas totalement à s'affranchir de la tendance du marché américain. Et ce qu'on est en train de voir sur le marché américain, c'est justement le fait que ces taux ne soient pas baissés et qu'on soit sur des taux longs qui ont du mal à baisser. Vous voyez les valeurs de croissance, et notamment le Nasdaq, qui est en train de reculer fortement. Et quand le Nasdaq recule, quand les indices américains reculent, les indices européens aussi ont du mal à surperformer. Donc, je pense que oui, en termes de dynamique, ce qu'on est en train de dire quand même, c'est que la croissance reste forte aux États-Unis, vous avez des taux qui restent aussi très très élevés, les marchés qui sont en train de respirer, mais vous avez quand même le revers de la médaille. Comme vous savez, les marchés américains, eux, ils ont le dollar. Ils ont le dollar et on commence à voir quand même un certain nombre de la volatilité, notamment sur le yen. Comme vous savez, le dollar, c'est un peu le problème des autres. C'est la monnaie des Américains, mais c'est le problème des autres. Et on commence à voir quand même des problématiques sur les différentiels de change, sur des niveaux historiquement bas sur le yen. Et tout ceci, c'est appelé à un moment donné à se réajuster. Et donc, probablement que l'Europe, avec sa baisse de taux, plus avancé, va avoir donc une dynamique qui va être qui va enfoncer encore le dollar, qui va encore donner plus de force au dollar et donc qui va affaiblir davantage l'euro. Pour autant, je pense pas que ce soit forcément une très bonne nouvelle. Ça va aider les entreprises européennes parce que en fait, quelque part, des taux plus bas, c'est toujours des conditions de financement plus faciles. Mais en fait, le facteur commun, il sera quand même intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce que ça va être quand même déterminant sur l'évolution des actifs risqués à travers le monde.
Oui, l'Europe n'arrivera pas à s'affranchir de la tendance américaine. On peut espérer peut-être un peu de surperformance en Europe. Peut-être si la BCE baisse ses taux avant la Fed, mais peut-être pas grand-chose. On en reparle dans un instant. Le club se poursuit, messieurs. Auparavant, oui, on accélère. On entre dans la dernière ligne droite de cette séance. On est à 18 minutes à peine de la clôture et on se oriente vers une baisse tout à l'heure. Le CAC 40 est en repli en ce moment de 0,7%. Effectivement, voilà, on a eu un mois d'avril assez pluvieux quand même en bourse. Moins 2,7% le CAC en avril. On entame le mois de mai encore sous la pluie. Ça continue, moins 0,7 supplémentaire donc sur le CAC aujourd'hui. Stellantis, comme mardi, est en net repli. Lanterne rouge du CAC. Le titre Stellantis avait perdu à peu près 10% mardi. Ben, ça continue, moins 4 encore ce soir pour Stellantis. Repli aussi pour ST Microelectronics, moins 3,5% avec AMD hein, qui a beaucoup déçu aux États-Unis. Et puis à la hausse, à l'inverse, Téléperformance. Waouh, qui accélère vraiment à la hausse, à l'approche de la clôture. On gagne désormais 14% sur ce titre Téléperformance. On en parle avec ce soir pour nous accompagner Michel Martinez, Société Générale CIB, et François Dossou pour Siena Gestion. Téléperformance, François, plus 14%. On parlait de ces méga-trends du début d'année qui tentent à s'essouffler. Sur l'IA, pareil, la magie semble en bourse. Hein, je ne parle pas technologiquement, je ne parle pas industriellement, je parle boursièrement parlant. La magie semble un petit peu s'éteindre, en tout cas se calmer sur l'intelligence artificielle. Est-ce que les groupes qui avaient pâti en bourse de l'irruption de l'IA, bah, du coup, peuvent en profiter pour ressurgir? Téléperf, ce soir, gagne 14%.
Alors, je pense que malheureusement, il n'y a encore pas de relation de cause à effet. Demain, on va apprendre, en fait, que c'est les shorts qui se sont rachetés sur un titre qui devient extrêmement volatile. Pour une simple et bonne raison, c'est que le marché a considéré qu'en fait, que c'était une entreprise qui allait souffrir du fait de l'intelligence artificielle. Et malheureusement, ce stade, on n'a toujours pas la réponse, y compris le management n'est pas capable de nous dire en fait quel sera l'impact de l'IA sur ses activités. Il continue à avoir une position plutôt positive en considérant que c'est un accélérateur en termes de profitabilité et que l'IA ne va pas se substituer en fait à son activité. Mais à ce stade, si vous voulez, une hirondelle ne fait pas le printemps. Cette publication, même si elle est supérieure aux attentes, je pense que le mouvement sur le titre aujourd'hui, c'est plus du rattrapage qu'un mouvement de tendance de fond, parce qu'il y a encore beaucoup d'ombre, de zones d'ombre sur le titre avant que nous puissions en fait avoir... l'histoire ne sera pas un long fleuve tranquille.
Et même techniquement, hein, Jean-Louis Cussac qui était avec nous tout à l'heure pour Perceval, c'était à 16h40 à peu près dans la famille BFM Bourse, il nous disait techniquement parlant, téléperformance, non, la hausse du jour c'est du feu de paille, sans doute pas de potentiel supplémentaire pour la suite, en tout cas pas très important ni durable, c'est ce qu'il nous disait. Si vous l'avez raté en direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. Michel, vous regardez tout ça, bien sûr, avec votre œil de macroéconomiste. Les marchés qui doutent un petit peu, là, en ce début de mois de mai. Est-ce que l'Europe a néanmoins, économiquement, une carte à jouer, là? On a vu un chiffre de croissance au premier trimestre en Europe bien meilleur que ce que laissait augurer la dynamique de la fin 2023. Ça semble s'améliorer sur le front de la croissance et sur le front de l'inflation aussi. Elle ralentit un petit peu, même dans les services. Est-ce que là, pour le coup, on a une forme de blue sky? Je ne parle pas boursièrement. Hein. On a compris, François, vous êtes prudent boursièrement. Mais économiquement, une forme de ciel un peu plus bleu à venir pour l'économie européenne. Michel.
Alors, il ne sera pas très bleu. Il sera pas, il y aura pas un soleil brillant. Mais oui, je pense qu'il y a, pas mal d'arguments pour dire qu'on a passé le pire des différentes crises qu'on a connues. Et en particulier, l'impact de la hausse de l'inflation, il est derrière nous maintenant. Alors c'est vrai, l'an dernier, on a eu 4 trimestres consécutifs à zéro de croissance en zone euro, donc 0,3. 0,3, on multiplie par 4, ça fait autour de 1 et des poussières. Je pense que c'est le rythme de croissance auquel il faut s'attendre, voire même légèrement inférieur à ça cette année. Ça suffit pour faire tenir l'économie, faire tenir le marché du travail, tout simplement parce que c'est probablement proche du potentiel de croissance. Donc c'est un rythme de croisière, je dirais, pour la zone euro qui nous attend cette année. Alors vous mentionnez l'inflation, c'est vrai qu'elle décélère un peu, l'inflation totale surtout, 2,4%, l'inflation domestique, 2,7%, les services, 3,7%. Après, quand on regarde l'inflation totale, elle est 2,4%, il y a de fortes chances qu'elle se passe à 2, voire en dessous de 2 cet été. Et donc, c'est pour ça que la BCE se sent confiante à signaler qu'à moins d'énormes surprises, elle baissera les taux en juin, et probablement au moins une deuxième fois. Maintenant, sous l'inflation, quand on regarde l'inflation sous-jacente, quand on regarde le momentum, en fait, les trois derniers mois, ça reste au-dessus de 3% quand même. Donc, les taux, les glissements annuels d'un an sur un an, ils baissent, mais en instantané, ça remonte même plutôt. Donc,
comment on l'explique ça, Michel? C'est les matières premières qui ont rebondi un petit peu ces derniers mois.
Non, là je parle de l'inflation domestique.
D'accord. Sous-jacente, oui.
Sous-jacente, oui.
Donc on est dans des salaires qui réaccélèrent un petit peu aussi.
C'est une combinaison de facteurs. Il y a des salaires qui, alors je ne sais pas s'ils rebondissent, mais ils restent, leur progression reste conséquente, au-dessus de 4%. On a aussi probablement une faible productivité, des marges de l'entreprise, on en parle, qui, ça a été dit au départ, mais dans il y a quelques informations à la baisse, mais dans l'ensemble, on a plutôt des profits qui tiennent. C'est plutôt les valorisations qui s'ajustent, mais les résultats eux-mêmes, ils restent corrects, ils ne sont pas décevants en moyenne. Ça traduit le fait que les entreprises peuvent conserver leurs marges et ça se voit in fine dans les prix aux consommateurs. Et puis alors ça concerne essentiellement les services.
Et je vous écoute, en fait j'ai le sentiment que tout va quasiment bien. Enfin, la croissance n'est pas mirifique en Europe, on est bien d'accord, mais on a une dynamique qui est là, on est proche désormais du potentiel de croissance. Vous parliez de rythme de croisière. Sur l'inflation, attention, il y a des petits signaux. Mais enfin, la BCE pourra quand même confortablement commencer à baisser ses taux au mois de juin. Enfin, j'ai l'impression que là, on entre dans une phase. On est bien, quoi. On est plutôt confortable, Michel.
Il y a beaucoup.
L'emploi est au plus bas historique, toujours en zone euro.
Le chômage est au plus bas historique. L'emploi, oui. Alors, je ne sais pas si tout est bien, mais on pourrait toujours rêver mieux. Mais c'est vrai que.
Et puis ici, ça ne se fait pas au prix d'un déficit en hausse comme aux États-Unis. Enfin, les déficits progressent en Europe, mais pas
élevé,
autant qu'aux États-Unis.
Ils restent quand même élevés.
Oui, bien sûr.
Ils restent quand même élevés.
Mais ils progressent moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, leur croissance, elle est financée à prix d'un endettement et d'un déficit vraiment compliqué.
Il y a eu un stimulus budgétaire colossal l'an dernier aux États-Unis, là, qui se resserre un peu. C'est moins vrai en Europe, mais les déficits publics restent quand même élevés en Europe. Tout se met en place pour que la BCE puisse baisser les taux.
Et un vrai cycle ou juste une ou deux baisses comme ça?
Ça, c'est la question. Ouais. C'est la question. Nous, on table sur des baisses de taux tous les trimestres, 25 points de base, ce qui serait lent, un rythme lent, mais avec un degré de confiance qui n'est pas extraordinaire. Sauf pour les deux premières baisses. Donc, je pense qu'il est acquis que la BCE baissera les taux de 4 à 3,5. On peut dire qu'à 3,5, on sera en territoire encore restrictif. Mais est-ce que la BCE peut baisser à 3, 2,5, 2, on a moins de confiance.
Vous nous suivez à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux aussi. On vous interroge chaque jour, vous tous qui nous suivez, sur notre fil X et notre fil LinkedIn, BFM Bourse. La question du jour, elle concerne Total Energy, une nouvelle fois, parce que Bruno Le Maire a remis une pièce dans la thématique Total Energy ce matin, en expliquant, il était l'invité de BFM TV, en expliquant qu'il allait se battre pour que la cotation principale de Total Energy reste en France et non pas à Wall Street. Et la question qu'on vous pose, c'est la suivante. Et vous, en tant qu'actionnaire, est-ce que vous préféreriez finalement Total Energy principalement coté à Wall Street pour peut-être mieux se valoriser ou rester à Paris, garder Paris comme place principale de cotation? Vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir voté. François, du point de vue de l'actionnaire de Total Energy, plutôt Paris ou plutôt Wall Street?
Moi, en tant qu'investisseur, j'ai pas de choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, à la fin, ce qui m'importe quand je regarde une entreprise, c'est la manière dont elle est valorisée. Bon, qu'elle soit dans un endroit sur une place de cotation où il y a davantage de flux, je pense que ça peut être qu'un point positif. Mais là encore, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien par rapport à cette volonté de vouloir rester, laisser Total coté sur Paris. Parce qu'en fait, ça dépend pour quel investisseur. Parce que je rappelle quand même que sur la version V3 du label, en fait, la question se pose pas. Vous ne pouvez pas être
label ISR exclut les pétrolières.
Voilà, ouais. Exclut les pétrolières, et je pense que c'est passé aussi entre les mains du même ministre qui a mis le cachet. Donc, je suppose que c'est pour défendre plutôt des actionnaires qui ne sont des investisseurs qui ne sont pas au label. Mais peu importe. Je pense que dans tous les cas, une approche qui consisterait à exclure de manière générale les pétrolières et donc qui serait en fait une des raisons pour lesquelles Total irait aux États-Unis, parce que les règles sembleraient plus abordables et plus moins complexes de l'autre côté. Je pense que une telle attitude en fait ne serait pas forcément créatrice de valeur, parce que quand vous achetez une valeur, vous l'achetez pour ses perspectives de croissance, vous l'achetez pour sa décote, vous l'achetez pour sa qualité extra-financière. Et dans sa qualité extra-financière, en l'occurrence, ce qui rentre en compte, ce n'est pas que l'environnement, il y a aussi le social, il y a la gouvernance. Et donc, acheter du Total, si vous pouvez le faire, c'est d'abord regarder ses fondamentaux financiers et extra-financiers, plutôt que de savoir s'il est coté à Paris
Londres
ou bien aux États-Unis.
Les équivalents de Total Energy sont mieux valorisés à Wall Street que ne l'est Total Energy à Paris. On pourrait dire la même chose dans l'anti-obésité. Et là, Eli Lilly, c'est une valorisation 30% supérieure à celle de Novo Nordisk. Et pourtant, les deux fabriquent les mêmes médicaments, enfin, les médicaments qui visent à limiter l'obésité. Les deux le font, et pourtant, c'est l'américain qui est le mieux valorisé. Oui. Donc, je suis investisseur, je me dis peut-être que c'est à Wall Street que mon avenir est le plus prometteur. Quoi.
Oui, à part qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas comment est-ce que l'opération va se faire, mais si elle reste cotée aussi à Paris, comme place secondaire, si vous voulez, ce sera le travail des arbitragistes. Les investisseurs qui resteront sur Paris, ils bénéficieront aussi de la performance du titre qui est coté à New York.
D'accord.
En fait, vous avez juste...
Ça ne va pas siphonner les volumes sur le titre à Paris.
Par contre, si vous me posez la question en tant qu'investisseur, moi je souhaite que Total reste sur Paris et surtout en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un marché qui va s'appauvrir mécaniquement. En fait, si vous commencez à transférer, si toutes les entreprises se mettent à... je pense que Total... comment dirais-je, la France a plus besoin d'un Total que les Américains ont besoin dans leur indice d'un Total. Hein. Je pense que ça ne manquera pas d'avoir Total. Par contre, nous, on aura un marché qui mécaniquement va plutôt avoir tendance à s'appauvrir.